dans les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits, les dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Bienvenue à notre rencontre de ce soir. Nous continuons l'étude des pratiques de Bodhisattva. Nous avons vu toute une série d'instructions correspondant à bodhicitta relatif. Comment, dans le relatif, le relationnel, vraiment vivre en bodhisattva, vraiment se comporter en bodhisattva. Nous l'avons vu en de nombreuses circonstances depuis la stance 11 jusqu'à la 21. Donc, après toutes ces circonstances particulières, nous allons maintenant aborder bodhicitta absolu. L'esprit d'éveil, le cœur, esprit éveillé au niveau absolu. Absolu ayant le sens d'ultime, d'insurpassable, ayant le sens aussi de non-dualiste. Bodhicitta absolu est l'expérience de la réalité ultime, de la réalité absolue, l'expérience de la non-dualité. Donc, Tomé Sampo nous dit, avec la stance 22, Jita nanwa dida rangisem, semni de ne trupe tatangel, deni chene zunzin senmanam, idla miche gyalsela ele yin. Le premier vers, Jita nanwa dida rangisem, dit toutes ces apparences, tout ce qui apparaît, quoi que ce soit, tout ce qui apparaît ainsi est notre propre esprit. Tout ce qui apparaît ainsi est rangisem, notre propre esprit. Alors, que cela signifie-t-il? Cela signifie que tout ce qui nous apparaît comme objet de connaissance, objet visuel, sonore, mental, sont notre esprit, sont faits par notre esprit. Et comment comprendre cela? Une façon extrêmement pertinente et avec l'exemple du rêve. Tout ce qui nous apparaît comme un objet de la cognition est une construction, une fabrication de notre esprit, tout comme ce que nous percevons dans le rêve est une fabrication de notre esprit de rêveur. Il s'agit d'une analogie. Tout comme. Et ceci nous rappelle la maxime de Lojo, de l'entraînement de l'esprit, qui dit « Chenam tamche milam tapusam » considère tous les phénomènes comme rêves. Donc, reconnaître, il s'agit de reconnaître tout ce qui nous apparaît habituellement comme fabrication de l'esprit, comme construction de celui-ci, comme projection. Cela nous rappelle aussi Chönam Tamche Semgi Namchul. C'est une Ranjun Dorje dans les souhaits du Mahamudra. Tous les phénomènes sont projections de l'esprit. Donc, tout ce que nous vivons comme autre, comme objet, est une construction, une fabrication de l'esprit, une projection de l'esprit. Comme le son les apparences du rêve. Lorsque nous rêvons, tout ce qui se vit en rêve est dans l'esprit du rêveur, et en cet esprit du rêveur naît la dualité avec d'un côté, une lucidité qui connaît des choses, une luminosité, des apparences oniriques, mais qui sont des, l'un comme l'autre, dans l'esprit du rêveur, et ce que l'on perçoit comme monde onirique est assurément une fabrication ou une projection de l'esprit du rêveur, de l'esprit qui rêve. Non. Les apparences habituelles ainsi sont esprit. Et il y a là une première étape qui est extrêmement importante. Reconnaître les apparences habituelles comme projection, comme esprit, d'une certaine façon, dérélise, dit-on certaines fois, les déréalise, désolidifie. Et les objets, les choses et les expériences qui sont associées, au lieu d'être durs, solides, des réalités que l'on saisit solidement comme étant vrai et auquel on s'accroche et avec lesquels on lutte, ces apparences deviennent beaucoup moins solides, beaucoup moins même, disons, dures deviennent, elles acquièrent une certaine transparence. Donne les apparences sont esprit et le reconnaissant, celles-ci deviennent beaucoup plus transparentes ou l'on saisit beaucoup moins celles-ci. Non, c'est notre saisie qui d'ailleurs les réifie. Donc, voir les apparences comme rêve, voir les apparences comme notre esprit, amène une diminution de la saisie, une désaisie. Le deuxième vers nous dit « Semni de ne trupei tatangel ». L'esprit en soi est à jamais dépourvu d'élaboration. Où l'esprit en lui-même est à jamais ou depuis toujours dépourvu de conception. Si les apparences sont esprit, l'esprit, lorsqu'il est cherché, examiné, l'esprit en soi, l'esprit en lui-même, n'est pas déterminable, n'est pas trouvable. Il échappe à toute détermination, conception. Il est chemin. Au-delà des catégories conceptuelles, quelles qu'elles soient. C'est sa vacuité. L'esprit en lui-même est vide. Libre de conception inconcevable, sa nature est inconcevable, et libre de conception non née. Si l'on on pourrait continuer le parallèle avec les maximes de Lojong, qui exprime la nature non née de l'esprit en lui-même, ou l'instance des souhaits du Mahamudra que j'avais commencé à en citer, qui, pour le deuxième vers, dit « Semni semme, semni ngô eton ». Quant à l'esprit, l'esprit en lui-même, il n'est pas d'esprit. L'esprit est vide d'existence en soi. Il est depuis toujours libre de quoi que ce soit, des distances indépendantes, des distances en soi et des sens. Et pourtant, il est le lieu d'émergence de toute expérience. Le troisième vers dit Denis Chene, Zunzin Senmanam, le quatrième, Yidla Midje Dial Selalein. Sachant cela, ne pas fabriquer mentalement saisie et saisisseur, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc, la pratique d'un bodhisattva au niveau de bodhicitta absolu est de comprendre cette irréalité fondamentale des objets habituels, cette insubstantialité, inexistence même de l'esprit en soi, et alors, sans fabriquer mentalement saisisseur et saisie, projection, introjection, projection, saisie et sujet, introjection du sujet saisisseur, sans fabriquer cette dualité, sujet-objet, Yidla Midje, le non-agir du mental, le non-agir de ce mental constitutif de cette saisie duelle, rester en le non-agir du mental, ne pas fabriquer ainsi la dualité conceptuelle, telle est la pratique d'un bodhisattva. Cette stance est extrêmement profonde et pourrait être beaucoup développée. Elle exprime l'approche, l'expérience et la pratique de la réalité ultime. On pourrait l'exprimer en termes de bodhicitta absolu, on peut l'exprimer en termes de bodhicitta absolu, en termes d'expérience du Mahamudra, en termes d'expérience du Dzogchen. C'est l'expérience de non-dualité, une qui est susceptible d'être dite dans différentes perspectives et réalisée avec différentes méthodes. Dans une perspective rimée. Bodhicitta absolu est aussi la pratique fondamentale et ultime de Vipassana, de l'acton. C'est la pratique libératrice. Libératrice de la dualité et libératrice de la conscience habituelle, c'est-à-dire du samsara. La stance 23 et la 24 continuent à exprimer bodhicitta absolu dans le non-attachement. Le non-attachement eu égard aux fixations sur les objets d'attachement, les objets agréables, et aussi en sachant voir l'adversité dans sa caractéristique fondamentalement illusoire. Stanze 23 nous dit Yitungwei Yultan Chepana, lorsque l'on rencontre des objets plaisants, Yagitut di Jatsun Jishintu, Zeparnayan Denparmitashin, comme les arcs-en-ciel de l'été, ils sont ces objets plaisants comme les arcs-en-ciel de l'été, apparaissant comme jolis, mais dépourvus de réalité. Aussi, abandonner tout attachement à leur égard, telle est la pratique d'un bodhisattva. Ces objets plaisants, jolis, mais sans véritable réalité, comme l'arc-en-ciel estival. Dont on peut contempler la beauté, mais qui, si l'on essaye de le saisir, est à jamais inatteignable, et courir après un arc-en-ciel est peine perdue. Les objets agréables qui nous séduisent quand on les rencontre, sont tout comme les arcs-en-ciel qui apparaissent pendant l'été, bien qu'ils soient plaisants, on ne devrait leur attribuer de réalité, abandonner les attachements et la pratique d'un bodhisattva. Ou, plus simplement, quand l'on rencontre un objet séduisant, comme pour les arcs-en-ciel estivaux, les voir comme jolis sans leur attribuer de réalité. Ainsi, ne pas s'y attacher, telle est la pratique d'un bodhisattva. Le problème n'est pas d'apprécier les beaux objets et les belles choses, mais de les réifier et de vouloir les réifiant, les saisir, les posséder, au niveau de bodhicitta absolu, voir cette irréalité des belles choses et des beaux objets, et ainsi rester, eu égard à ceci, en une attitude libre de saisie, libre d'attachement, telle est la pratique d'un bodhisattva. La 24e stance, elle nous dit comment rencontrer l'adversité. Dungal Natsu Milam Pushitar. Les les souffrances variées sont comme notre enfant qui meurt en rêve. Il y a une souffrance, mais ce n'est pas quelque chose de vrai, de réellement, de vrai, de réel. Tulnan denpar zoma atangche. Saisir comme vrai les apparences illusoires est épuisant. Saisir comme réel les apparences illusoires est épuisant. Se fixer sur les choses comme étant réelles et lutter avec celles-ci est épuisant. Comme de lutter avec son ombre. Personne n'a jamais eu raison de son ombre. Prendre son ombre pour un adversaire réel et lutter contre celui-ci est épuisant. Il ne se fatigue jamais avant vous. Dechir mitun kienta trepeitse tulpartawa galsen lalein. C'est pourquoi, lorsque l'on rencontre des circonstances adverses, les voir comme illusion, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc plutôt que de voir les circonstances adverses comme des choses réelles, dures, tangibles, une réalité solide, et lutter, s'épuiser, dans des luttes vaines et maladroites, savoir voir les réalités de ces circonstances adverses, leur caractère illusoire, reconnaître l'illusion de ces circonstances adverses, leur vacuité, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc, nous avons ces trois stances. La première, nous expose bodhicitta absolu du point de vue de la non-saisie et de la non-dualité et de la non-conception. Et les deux autres dans on pourrait dire l'application de cet état de non-saisie vis-à-vis des objets plaisants et des objets déplaisants. Dans les deux cas, reconnaissant leur irréalité et par là même restant alors, dans la non-saisie, Il a une difficulté. Il ne s'agit pas de rester désengagé dans un état non impliqué de désaisie, de comprendre la désaisie comme une non-implication serait une grave erreur. Et c'est là une grosse difficulté. Mais dans la non-saisie, on entre en non-saisie dans la pleine expérience de ce qui se vit. Et alors, si l'on parle des objets d'attachement ou des objets de répulsion, où ça entre dans la pleine expérience, dans le vécu direct, immédiat, sans saisie, et ainsi dans l'état d'expérience non-duelle de ce qui est ici, alors, comme objet attrayant ou déplaisant. Est-ce qu'il y a sur ces trois stances des remarques, des observations, des questions? Si oui, elles sont les bienvenues maintenant. Isabelle, s'il vous plaît.
Comment faire la différence entre la non-saisie et l'attachement au non-attachement?
L'attachement au non-attachement est la saisie du non-attachement. La non-saisie est surtout le non-saisisseur. Et s'il y a quelqu'un qui est dans le non-attachement, cette personne, de ce point de vue, est dans l'erreur. En l'absence de saisisseurs, la question est résolue. En la non-méditation, il n'est ni méditant, ni déité, ni mantra. En la non-méditation, il n'est ni méditant, ni médité, ni méditation. En le non-agir du mental, il n'est ni sujet, ni objet, ni action, relation. En cet état, il n'est rien à enlever, ni rien à rajouter. Mais c'est l'état de présence d'absence de présence totale en l'absence d'observateur, de présence totale en l'absence de saisisseur, de présence totale en l'absence de saisie et de saisisseur, en l'absence de dualité. Mais saisir le non-attachement grave comme de saisir la non-réalité. Ceux qui saisissent la réalité sont bêtes, ceux qui saisissent la non-réalité sont encore bien plus bêtes. Saisir le non-attachement, je suis sans attachement. Zen, cool. Et cette attitude, de cette posture ce positionnement dans le non-attachement est ce que l'on nomme l'indifférence. C'est le troisième poison de l'esprit et des trois le plus subtil, le plus pernicieux et aussi finalement le plus difficile à éradiquer. Donc, c'est une bonne question. Attention. Jeune homme.
Comment est-ce qu'on valide l'expérience pour ne pas s'auto-illusionner? Et à ce moment-là, qui ou quoi valide?
Au niveau relatif, c'est important d'avoir un maître. Personne physique, scripturaire ou symbolique, fondamentale, une guidance. Il est l'ami de bien, l'ami de vertu, le guide, le maître, appelez-le comme vous voulez, a ce rôle d'accompagnateur et il nous aide à valider notre expérience dans ce qu'elle peut avoir d'authentique et aussi ce rôle qui consiste à nous mettre en garde par rapport à de possibles déviations et à l'auto-illusionnement. C'est la propension à se raconter des histoires. Très grave, très, très forte. Et l'auto-illusion. Et apprendre ces illusions pour des réalités et à s'auto-justifier dans toutes sortes de l'ego est extrêmement malin et a une capacité d'auto-justification et d'auto-illusion incroyable. Donc, l'ami de vertu, l'ami de bien, le maître, a une fonction miroir. Ça n'est pas un directeur au sens d'un commandant, mais il a une fonction miroir qui nous renvoie à la fois notre expérience dans ce qu'elle a d'authentique, la validant, et aussi nous renvoie notre illusion, pouvant nous mettre en garde par rapport à l'auto-illusionnement. Très important. Merci.
Alors, Rinpoche, nous avons 4 questions en attente sur Internet.
Alors,
la première est de Sonam Namgyal d'Alvar.
Sonam, bonsoir.
Alors, est-il préférable de rêver tout en étant éveillé plutôt que de conserver le souvenir d'un rêve qui s'effectue quand nous sommes endormis?
Si l'on en est capable, il est bien de rêver éveillé, c'est-à-dire d'être lucide du rêve lorsque l'on rêve, et mieux vaut faire des rêves lucides et apprendre à pratiquer avec le rêve dans la lucidité de celui-ci que de se remémorer les rêves et d'analyser ceci comme des souvenirs. Oui. Mais l'apprentissage du rêve lucide qui est la base du yoga du rêve est à... Chez certaines personnes, dans certaines circonstances, ça arrive spontanément. Mais la stabilité d'avoir la faculté de rêve lucide d'une façon stable est un entraînement, un apprentissage qui demande une pratique intense et persévérante.
Mais est-ce que la pratique du rêve lucide peut justement nous aider à pratiquer le rêve dans la réalité, c'est-à-dire à prendre la réalité comme rêve? Et en quelle manière?
C'est son propos, parce que lorsque l'on vit l'illusion en rêve, l'on expérimente véritablement l'illusion et de différentes façons. On la voit, on la vit et elle est en rêve comme en veille et l'acquis et la compréhension de l'expérience du rêve est transposable et transposée en l'état de veille.
En fait, on cultive un état d'esprit, une façon de voir ce qui nous entoure.
C'est une façon de comprendre comment notre esprit fabrique la réalité que l'on vit, que je suis et que je vis. Et lorsque l'on l'a vécu, en rêve, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une expérience, celle-ci a une qualité profondément libératrice.
Alors, une question de Sergio Deprel. Je ne suis pas sûre que ça a vraiment à voir avec le sujet du soir.
Sergio Deprel.
Alors, bonsoir Rinpoche. Est-ce que le mantra de Chenrezi, qui est un rappel constant de bodhicitta absolue et relative au même moment, est-ce que ce mantra est un rappel constant de bodhicitta absolu et relatif au même moment, et comment éviter les mentalisations qui sont possibles pendant le rappel quotidien?
Réciter le mantra de Chenrezi, Om Mani Padme Hum, c'est un rappel de bodhicitta, Om Mani Padme Hum, et continuer ainsi à le bien réciter. Il accomplit spontanément bodhicitta. Si vous Si vous avez encore une question.
Il y a deux questions qui sont vraiment en lien avec le sujet du soir.
S'il vous plaît.
On peut aller vite. Laudrema de Lyon.
Laudrema de Lyon, bonsoir.
Alors, bonsoir Rinpoche. Considérer l'adversité comme illusion, cela signifie-t-il l'accueillir sans projection ? Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous évoquez l'absence de saisisseur ?
Cela signifie de ne pas se fixer sur l'adversité. Et l'adversité, les circonstances difficiles, pénibles, douloureuses, sont difficiles, pénibles, douloureuses, mais plus l'on se fixe dessus, plus ces circonstances sont pénibles, hein, douloureuses. Donc, ne pas se fixer sur ces circonstances, même si elles sont pénibles et douloureuses, et les voir dans leur réalité, mais dans leur réalité simple, crue, réelle, mais sans saisie. Et ce dont il s'agit.
Une dernière question de Barbara de Tours.
Barbara, bonsoir.
Je trouve qu'on parle beaucoup de l'esprit alors que celui-ci est inconceptuel. Est-ce qu'en parler ne nous empêche pas précisément de faire cette expérience immédiate ?
De parler de l'esprit peut-être une façon de ne pas le trouver, de parler le mental qui parle, ne peut pas trouver la nature silencieuse, les concepts ne peuvent pas concevoir l'état sans concept. Mais il est indispensable de pouvoir communiquer pour entrer dans la compréhension et l'expérience. Et la parole, dans ce qu'elle a de plus profond, hein, conduit à l'expérience du silence. Tout à l'heure, nous disions Yidla Midje, la non-fabrication du mental, la non-conception, qui est le silence de la conceptualisation et du mental discursif. C'est aussi la pratique de shamatha dans ce qu'elle a de plus profond. Un petit moment de contemplation pour conclure. toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Derine voudrait prendre la parole pour nous dire qu'il y aura une légère modification dans la programmation et que nous continuerons les 37 pratiques de Bodhisattva lors de notre prochaine rencontre, c'est-à-dire jeudi. Ai-je bien deviné votre pensée ? Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir et à jeudi. Que tout soit propice.